Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Europa City, daté et dépassé. Emmanuel Macron enterre le projet de méga complexe. Que va-t-il y avoir à la place dans le Val d'Oise? On fait le point avec Diane Berger.
Et puis le président français a aussi critiqué l'OTAN. L'Alliance Atlantique est en état de mort cérébrale, selon lui, l'ancien chef de la diplomatie Hubert Védrine salue ses propos.
Un homme soupçonné d'avoir été l'émir d'un groupe djihadiste en Syrie est jugé depuis hier par la cour d'assises de Paris. Un profil atypique, nous dira Florence Turm. Au Venezuela, un peu plus de la moitié des transactions se font en ce moment en dollars, parfois en euros. Reportage à Caracas. Et la question du jour, Guillaume.
Pauvreté, pourquoi la situation s'aggrave-t-elle? Je poserai la question à Nicolas Duvoux. Il est professeur de sociologie à l'université Paris 8 et ça sera dans une dizaine de minutes.
Avant d'en venir à l'actualité française, voilà une histoire extraordinaire, celle de Jamila Al-Youssef, une jeune femme qui fêtera ses 30 ans demain, date anniversaire aussi de la chute du mur. Elle est donc née un jour historique, le 9 novembre 1989, à Berlin, d'une mère est-allemande et d'un père palestinien. C'est un reportage de notre envoyé spécial en Allemagne, Omar Waman.
C'est dans le quartier Mitte, dans l'hypercentre de Berlin, que Jamila Al-Youssef a vu le jour.
Nous sommes devant un grand bâtiment, c'est l'hôpital de la Charité. C'est ici que mes parents travaillaient et c'est ici que je suis née le 9 novembre 1989, le jour de la chute du mur de Berlin.
L'hôpital de la Charité se trouvait au pied du mur de Berlin, côté est. C'est là que Jamila est venue au monde avec 10 jours de retard, se souvient Carola, la maman.
Oui, c'est vrai. Elle a attendu l'événement spécial. Et la famille est arrivée en fin d'après-midi, après 18 heures. Peu après, comme ma chambre était au 18e étage et que je pouvais voir le mur depuis ma fenêtre, j'ai aperçu une foule très importante se diriger vers le poste frontière qui était ouvert.
Carola, l'Allemande de l'Est, et le papa, Moufid Al-Youssef, originaire de Naplouse en Cisjordanie, est arrivé à Berlin en 1978 pour étudier la médecine.
Aujourd'hui, je suis socialiste. Et dans ma jeunesse, avant d'arriver à Berlin, je l'étais encore plus. Donc, j'étais très content de venir ici. Mais d'un autre côté, j'ai vu ce que c'était de vivre dans un état policier. Et il y avait bien sûr la Stasi qui espionnait tout le monde.
Et de cette union est donc née Jamila, enfant de deux murs, celui de Berlin qu'elle n'a pas connu et celui qui sépare Israël des territoires palestiniens, mur qu'elle a découvert en 2008.
Nous avons traversé le checkpoint de Calandia et je me souviens de ce regard bizarre parce que j'avais un passeport allemand avec un nom arabe. J'ai ressenti un sentiment de colère, mais aussi un peu de peur. J'ai toujours espéré que ce mur tombe avant ma mort.
Et aujourd'hui, Jamila est devenue une ardente partisane de la paix, une paix qu'elle chante avec son groupe de musique Jamila and the Other Heroes.
Et on reparlera de l'Allemagne unie ou désunie 30 ans après la chute du mur. C'est le grand reportage à suivre ce soir à 17h sur France Culture. Europa City ne correspond plus aux aspirations de nos concitoyens, a annoncé hier l'Élysée qui abandonne le projet. Ce méga complexe mêlant centre commercial et parc de loisirs dans le Val d'Oise au nord de Paris était critiqué par des mouvements écologistes et des petits commerçants, mais soutenu par des élus locaux et des habitants qui espéraient la création de 10 000 emplois. À la place, le président veut un projet alternatif, Diane Berger.
L'Élysée évoque plusieurs projets coordonnés sur une surface plus étendue que le programme d'origine. Un mélange de résidentiel, d'activités agricoles, de petite industrie avec du circuit court et peut-être, comme pour Europa City, une dimension loisir. L'idée recréer, je cite, un morceau de ville qui donne envie. Mais de nombreux points d'interrogation demeurent. D'abord, quelles seront les retombées économiques de cette alternative? Car selon une étude de la Commission nationale du débat public, le projet Europa City devait créer 10 000 emplois, une manne très attendue par les élus locaux du Val d'Oise. Il dénonce maintenant ce qu'il nomme un abandon de la banlieue. Ensuite, est-ce vraiment envisageable de bâtir du résidentiel dans cet espace coincé entre les aéroports du Bourget et de Roissy? La pollution sonore rend les lieux très difficilement habitables. Et enfin, que deviendra la gare du Triangle de Gonesse? Les travaux doivent commencer cet automne pour desservir le site via la future ligne 17, mais les opposants d'Europa City réclamaient aussi son abandon. Du côté du Grand Paris Express, on indique que le chantier n'est pas annulé, même si on est dans l'attente de l'alternative évoquée par Emmanuel Macron. Macron. Beaucoup de questions donc autour de ce nouveau projet. Son élaboration est confiée par l'Élysée à Francis Roll Tanguy, ancien directeur de l'atelier parisien d'urbanisme. Il a prévu, avant toute prise de décision, de renouer le dialogue avec les différents acteurs.
Francis Roll Tanguy, qui était notre invité hier dans le journal de 22h, il faut regarder vers l'avenir, a-t-il déclaré, avec des emplois de demain et non pas d'hier. Une interview à réécouter sur franceculture.fr. Des paroles en or d'après Moscou, une vision radicale pour Berlin. L'interview d'Emmanuel Macron au journal britannique The Economist est publiée hier, provoque de nombreuses réactions. Il y déclare notamment que l'OTAN, alliance politico-militaire, est en état de mort cérébrale. Le chef de l'État déplore le manque de coordination entre les États-Unis qui nous tournent le dos, dit-il, et l'Europe. Il a raison d'essayer de faire évoluer ses partenaires européens, estime l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine.
Ça fait très longtemps qu'il y a un doute sur la vraie garantie de l'OTAN. Ça remonte au moins aux années 60 avec la riposte graduée des Américains, qui était une façon de ne pas être engagé tout de suite. Après, il y a eu toutes les grandes négociations américano-soviétiques qui ont été faites par-dessus notre tête. Hein. Les Américains ont utilisé l'OTAN dans tous les sens en faisant du roseau, donc on ne comprend plus très bien quel est le lien avec l'Atlantique Nord. Donc il y a une espèce de doute depuis des années. Alors Trump, avec la méthode brutale qu'on lui connaît, il a dit qu'il ne se sent pas absolument obligé de garantir la sécurité des membres. Alors, c'est la base même de l'Alliance, c'est l'article 5. Mais c'est une situation qui est maintenant connue depuis quelques années. Même Mme Merkel, qui s'effarouche un peu, avait dit comme on ne peut plus compter vraiment sur eux, il faut s'organiser mieux entre nous, et finalement il ne se passe rien. Et donc les Européens, au lieu de s'organiser, on a un pôle européen dans l'Alliance, ils mettent des cierges quoi, pour que les Américains les protègent quand même. Donc je comprends que Emmanuel Macron pense qu'il n'a plus aucun intérêt de rester dans le non-dit, les euphémismes, la langue de bois et les mensonges. Et donc il espère, à mon avis, provoquer une réaction positive.
Hubert Védrine, propos recueillis par Stéphane Robert. Depuis hier, la cour d'assises spéciale de Paris juge un homme de 49 ans accusé d'avoir effectué plusieurs séjours en Syrie auprès de groupes djihadistes. Il aurait tenu le rôle d'émir dans l'un d'entre eux. Il s'agit d'un Tchétchène naturalisé français au profil étonnant. Florence Turm suit le procès.
Il a grandi à Grozny dans un milieu aisé, père ministre, ami du président de l'époque, jusqu'à la deuxième guerre de Tchétchénie au début des années 2000. La famille perd alors tous ses biens, lui quitte son pays pour la France, obtient rapidement l'asile politique, puis sa naturalisation en 2008. Chemise à carreaux, longs cheveux blonds et barbe fournie, Kassenbek Tourtchaev ne nie pas le terme de Casanova employé pour le décrire par l'une de ses femmes. 4 femmes épousées religieusement et 8 enfants dont il est incapable de citer la date de naissance. La troisième s'avance à la barre. Ils ont vécu des années à Strasbourg, visiblement repliés au sein de la communauté tchétchène. Elles, comme lui, ont encore besoin d'un interprète en russe pour s'exprimer. Il donne l'impression de quelqu'un de brutal, mais c'est un homme bon et généreux, commence-t-elle. Son téléphone sonne, un appel à la prière résonne dans la salle d'audience. La jeune femme se perd dans des explications hasardeuses, incapable de justifier la présence sur une tablette et un disque dur appartenant à son mari, des photos d'exactions et de massacres. La vidéo d'une femme kamikaze ou encore un manuel du tireur d'élite. On lui prête un rôle de sniper. L'accusé affirme être parti en Syrie pour aller chercher ses 2 frères, morts depuis en zone de combat. Les enquêteurs le considèrent aussi comme un religieux très radical, émir d'un groupe du Caucase, devenu formateur chargé d'initier les nouvelles recrues et de les amener sur zone pour poser les explosifs.
Et le verdict est attendu ce soir après le réquisitoire et les plaidoiries. Le trafic des trains est perturbé aujourd'hui sur l'axe TGV Est. 7 sur 10 vont circuler entre Paris et Strasbourg. Des contrôleurs font grève à cause de changements d'horaire. Cyril Chabanier, 46 ans, est le nouveau président de la CFTC. Cet économiste a été élu hier soir à la tête du syndicat français pour 4 ans. Il a entre autres promis de féminiser et rajeunir les instances dirigeantes.
7h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Margot Delpierre. L'ex-président brésilien Lula pourrait bientôt sortir de prison.
Les magistrats de la Cour suprême, plus haute juridiction du Brésil, ont mis fin hier à une jurisprudence selon laquelle une personne peut être emprisonnée avant l'épuisement de tous ses recours si sa condamnation a été confirmée en appel. Immédiatement après, les avocats de cette figure de la gauche, emprisonnée pour corruption depuis 1 an et demi, ont annoncé qu'ils allaient demander sa libération. Le Venezuela a sa propre monnaie, le bolivar, et pourtant le dollar est en passe d'être plus utilisé. Selon une étude du consultant vénézuélien EcoAnalytica, un peu plus de la moitié des transactions dans le pays se font en devises étrangères. Ce n'est pas autorisé, mais l'hyperinflation complique le paiement avec la monnaie nationale. Benjamin Delisle, correspondant de RFI pour France Culture, l'a constaté dans un marché de Caracas.
En plein milieu du marché couvert de Chacao, José affiche deux prix pour ses œufs, l'un en bolivar, l'autre en dollar. Il le fait car de plus en plus de clients utilisent des devises étrangères.
Ça fait 6, 7 mois, peut-être un an maximum, il n'y a plus de liquide en bolivar. Les cartes bleues fonctionnent mal, donc autant utiliser des dollars.
Hector et sa femme Delcy glissent justement quelques billets verts à leurs marchands de légumes, mais ils assurent ne pas tout payer en dollars.
Ça dépend du taux de change que propose le commerçant. Parfois il est bon et ça vaut le coup, parfois non. Désormais il y a des supermarchés où à la caisse ils n'acceptent que des dollars ou des euros.
Ce qui les étonne, c'est la quantité de devises qu'on trouve dans la rue. Eux reçoivent des dollars de leur fille qui vit à l'étranger, mais ce sont des quantités très limitées.
Ce qu'il se dit, c'est que des gens liés au gouvernement font entrer beaucoup de dollars en liquide.
Difficile de savoir, mais une chose est sûre, pour Adrian, le marchand de légumes, les bolivars sont en train de disparaître.
S'ils peuvent, les gens préfèrent avoir des dollars plutôt que des bolivars parce que cette monnaie n'est pas touchée par l'inflation. Ses prix restent stables.
Ce n'est pas totalement vrai. Selon EcoAnalytica, les prix en dollars ont été multipliés par 5 depuis janvier. C'est paradoxal, mais le billet vert est tellement recherché que sa valeur augmente. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser.
Le président des États-Unis a été condamné hier par un tribunal de New York. Donald Trump doit verser 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir utilisé sa fondation comme instrument politique et non pour faire œuvre de charité. Un an avant l'élection présidentielle américaine, le géant Facebook a annoncé hier une série de mesures pour protéger le processus démocratique. La transparence doit être renforcée, par exemple en indiquant clairement qui contrôle les pages politiques sur le réseau social. Facebook tente de regagner la confiance du public après le scandale de Cambridge Analytica, société britannique qui avait récupéré les données de millions d'utilisateurs pour mener des campagnes de manipulation politique. Le temps aujourd'hui sera agité sur le sud-ouest de la France ainsi qu'en Corse. Il fait ce matin entre moins 2 et 0 degrés dans le sud-est, jusqu'à 6 dans l'ouest, 11 près de la Méditerranée et sur la façade atlantique. Les températures maximales seront de 8 degrés à Strasbourg, 9 à Lille et Paris, 11 à Bordeaux et Lyon, 13 à Bayonne et 16 à Nice, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.